C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission Les boulons, l'émission des boulonnais. Je suis accompagné de Fernande.
Bonjour Charlie, enchanté.
Donc sur la table, nous avons Marianne, nous avons Isabelle, nous avons Cathy, nous avons Yannick, nous avons Julien, nous avons Michel et nous avons Vanessa. Et nous avons Luc à la technique. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Donc nous avons de la pétanque, présentée par Julien qui va nous faire de nous un as.
Avec l'accent.
Après, la deuxième partie, c'est Michel qui va parler de la vieille ville.
Ensuite, nous aurons une pause musicale de Amir, présentée par Fernande.
Après, c'est la cuisine.
La cuisine.
De Fernande.
Alors, ensuite, nous avons une interview avec Isabelle, présentée par Marianne.
Après, c'est pause musicale.
Donc Scorpion, présenté par Julien. Nous avons des micro-trottoirs.
Les micro-trottoirs.
Et ensuite, Yannick va se prendre pour le Perfora en nous posant des énigmes.
Et ensuite, c'est
ensuite
le quiz.
Nous avons une chanson de Gilbert Bécaud, présentée par Michel. Maintenant, commençons par Julien. Vas-y.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ma chronique tournera autour de la pétanque. La pétanque, on connaît. Enfin, je pense qu'on connaît tous les règles, mais je vais les rappeler. C'est celui qui a, à la fin de la partie, qui a la boule la plus proche du cochonnet, et l'équipe marque autant de points qu'elle a de boule plus proche du cochonnet, en fait. Alors, pour jouer à la pétanque, il faut avant tout des boules. Donc, voici celles qui sont homologuées. C'est la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui homologue les boules. Elles doivent être en métal, donc en acier inox ou au carbone ou au bronze. Elles doivent être ni plombées ni sablées, d'un diamètre entre 7,05 et 8 cm. Elles doivent peser entre 650 g et 800 g. La dureté, elle doit être égale ou supérieure à 110 kg par millimètre carré. Moins de rebond pour les boules tendres. Donc les boules tendres, c'est les boules qui se rapprochent le plus de 110 kg par millimètre carré. Pardon. Résister aux impacts sans projeter d'éclat. Elles doivent ne pas avoir de stries plus grosses qu'un millimètre. Il doit y avoir inscrit le label de la marque du fabricant, le poids des boules et leur référence d'identification. Alors je vais expliquer un peu plus en détail. L'acier inox, c'est pour moins d'accroche, c'est plus pour les tireurs, ceux qui vont dégommer les boules des adversaires. L'acier au carbone, c'est plutôt pour, on a plus d'accroche sur la boule, donc il va y avoir un petit peu plus de retard quand on va la lâcher. Ce sera plutôt pour les pointeurs, ceux qui vont essayer de se rapprocher du cochonnet. Et les bronzes, je connais pas du tout. Le diamètre, en général, c'est par rapport à la taille de la main. Mais on préfère un diamètre un peu plus gros pour quelqu'un qui va tirer plutôt que quelqu'un qui va pointer. Parce que, en fait, si vous voulez, quand on a une plus grosse boule, c'est plus facile de viser, de toucher une boule adverse que si jamais on avait une petite boule. Donc les pointeurs, eux, ils auront une petite boule pour justement éviter de se faire retirer leur boule. Le poids. Alors le poids, c'est comme j'avais dit, entre 650 et 800 grammes. Un bon compromis, c'est 700 grammes pour les joueurs de milieu, parce qu'il y a trois postes en fait. Il y a le poste de tireur, pointeur et milieu. Le milieu, il fait un peu les deux. Le milieu, il aura plutôt à peu près 700 grammes. Il faudra rajouter 10 ou 20 grammes pour le pointeur et enlever 10 ou 20 grammes pour le tireur parce que ça fatigue le bras de tirer. La dureté, comme je disais, il y a moins de rebond pour les boules tendres qui se rapprochent de 110 kg par millimètre carré. Donc c'est plutôt destiné aux tireurs, les boules tendres, parce que si vous voulez, elle va moins rebondir quand elle va être tendre, donc on a moins de chances de passer au-dessus de la boule adverse quand on va tirer. si elle fait un rebond avant.
Dis Julien, tu as essayé le nouveau terrain de pétanque que les EHPAD du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ont construit ?
Alors oui, il est très bien. Il est juste, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est un petit peu petit en longueur. Mais je veux dire, les gravillons, tout ça, je trouve que c'est vachement. Il a bien été fait en fait.
Il a bien été. Ah, c'est voilà. Super d'entendre ça. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire être Fanny à la pétanque ?
Je connais le terme du baby-foot, c'est être gagné 13-0, du coup.
Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Tu sais d'où ça vient, être Fanny ?
Ça doit venir de...
C'est Marcel Pagnol, ils en parlent dans les anglais.
Marseille, ça. Hein.
Je vous le dis, ça vient du 19e siècle. Il y avait une petite dame dans la banlieue lyonnaise qui, pour consoler les pétanqueux qui ne marquaient pas un point, en fait, elle les prenait à l'écart et elle soulevait sa robe et elle monterait ses fesses.
Oui, ça s'appelait Fanny.
Voilà, ça s'appelait, ça. Elle s'appelait Fanny. Bah, c'est drôle quand même, ouais, t'es pas d'accord.
Bon, et là, nous allons passer à Michel qui va nous faire une petite visite dans la vieille ville.
Bonjour aux auditeurs. Je vais vous parler de la vieille ville. On dit la haute ville aussi, au choix. Je voulais vous faire partager mon attirance par ce lieu de la ville de Boulogne. Alors, je vais commencer par les remparts qui ont été édifiés au XIIIe siècle par le comte Philippe de Hurepel, qui définissent les limites de la haute ville de Boulogne-sur-Mer. Édifiée sur les bases du camp militaire romain de la flotte de Bretagne, elle s'étend sur 300 et 400 mètres de côté, en une vaste enceinte rectangulaire percée de quatre portes. Je vous rappelle la porte Neuve, la porte des Dunes, la porte des Degrés et la porte Gaillol, sur chacune de ses faces. Jusqu'à la Révolution, la noblesse et le clergé sont majoritaires derrière les murs fortifiés, où se concentrent la plupart des bâtiments emblématiques de la ville. Centres administratifs, religieux et politiques sont regroupés dans cet espace restreint, tel l'hôtel de ville, le Beffroi, le château comtal, le palais de justice ou encore la basilique actuellement en réfection, offrant un aperçu architectural couvrant plusieurs siècles. En outre, la ville fortifiée permet également, par l'exploration de ses sous-sols, la redécouverte d'un patrimoine disparu, avec une partie de l'enceinte romaine sous le château et la crypte romaine de la cathédrale détruite à la Révolution, qu'on peut à nouveau visiter, cette crypte. Alors, distante de la zone portuaire, la haute ville est relativement épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale et permet aux visiteurs qui passent aujourd'hui l'une de ces quatre portes la découverte d'un ensemble urbain mieux préservé, différent de celui de la ville basse. Alors, le château comtal et ses fortifications sont bâtis au XIIIe siècle par le comte Philippe de Hurepel, déjà nommé, sur le tracé de l'enceinte du camp militaire romain. Édifié à l'un des angles orientaux de la nouvelle fortification, le château est relié à la haute ville par une entrée principale dont le portail actuel date de la fin du XVIIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, le rôle stratégique de Boulogne diminue avec l'élargissement des frontières du royaume de France. Le château est utilisé comme caserne, puis devient une prison lors de la Seconde Guerre mondiale. La municipalité l'achète en 1974 et décide d'en faire un musée et d'y installer ses riches collections, égyptologie, mariette et ses recherches, vases grecs antiques, collections alaskiennes. La rue de Lille, reprenant le tracé de la voie antique est-ouest, mène de la place Godefroy de Bouillon, où est située l'actuelle mairie, jusqu'au parvis de la basilique. On trouvait à l'origine dans cette rue échoppes et auberges destinées aux nombreux pèlerins venus célébrer Notre-Dame depuis le Moyen-Âge, telle l'hôtellerie du Croissant au nord de la rue, plus ancienne maison de Boulogne. La rue de Lille, anciennement appelée la rue des Cuisiniers, actuellement comporte de nombreux restaurants attirant nombre de touristes. L'hôtel de ville et la place Godefroy de Bouillon, alors construit en 1734 sur l'initiative du bailleur Émile Mutineau, l'hôtel de ville est construit sur l'emplacement de l'ancienne maison commune. Modifié au cours des siècles, il est agrandi en 1854 et en 1931. Alors, depuis 2007, durant les mois d'été, la place Godefroy de Bouillon est le cadre privilégié d'un jardin éphémère conçu sur un thème différent chaque année. Alors, cette année, c'est la musique et il a été édifié un kiosque. Alors, je ne sais pas, il est en dur, je ne sais pas s'il va être détruit ou pas, puisqu'il est très joli, ce kiosque.
Merci, Michel. Maintenant, on va mettre une pause musicale et c'est moi qui va mettre une dédicace pour ma copine Nathalie, Amir Rétine. Merci.
C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. Le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Demain, on n'avait plus rien, je te dirai pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi.
Et ça finira jamais. Ça finira jamais.
Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour, de retour avec les boulons. Michel va reprendre sa chronique sur la vieille ville.
Oui, alors je continue ma rubrique. Je vais vous parler du beffroi. Alors, dans sa partie basse, donjon d'un château datant du XIIe siècle, il devient beffroi lorsqu'est construit le nouveau château à l'angle des fortifications au XIIIe siècle. Il est transformé à plusieurs reprises, dont une dernière fois en 1734, où il est rajouté l'étage octogonal, symbole de la puissance et des libertés communales. Le beffroi est classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2005. La basilique Notre-Dame est bâtie à partir de 1827 sur l'initiative et sur les plans de Mgr Affringues, sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale détruite lors de la Révolution. Terminée dans les années 1870, la hauteur de son dôme lui permet de dominer la ville. Son style s'inspire de l'architecture religieuse classique de la Renaissance en y intégrant des éléments gréco-romains, telles les colonnades, le palais de justice et la place de la résistance, édifiés à l'emplacement d'anciennes sénéchaussées. Le palais de justice est inauguré le 10 novembre 1852. Son fronton représente la loi appuyée sur la force et la justice qui protège la société. Alors, je vais vous parler en bref de la porte des degrés. C'est la plus étroite des quatre portes de l'enceinte médiévale et n'offre qu'un passage pour les piétons. Elle redonne dans le boulevard Prince-Albert. Cette porte donne accès à la rue portant le charmant nom de rue du Puy-d'Amour. Alors, la promenade Clémenceau. Alors, au XIXe siècle, entre les remparts et les boulevards circulaires, les boulevards Urvin, Mariette et Prince Albert ont décidé l'aménagement de jardins et d'espaces verts, entraînant la concentration sur ces promenades fréquentées de très nombreux monuments et statues. Le monument du souvenir français devant la porte des degrés rend hommage aux enfants de Boulogne morts au champ d'honneur, en particulier lors de la guerre de 1870. Il est dû au sculpteur Lormier et à l'architecte De Croix. Il est inauguré le 18 septembre 1898. Alors, il y a aussi la porte des dunes qui donne le haut de la Grand Rue. Elle permet d'accéder à la haute ville dans la niche surplombant le porche et placer une statue de Notre-Dame bénie le 20 mai 1659 qui a été détruite. À la Révolution et qui a été réinstallée en 1830. La promenade des remparts, alors au XVIIIe siècle, sur la promenade des remparts, il y avait des ormes qui avaient été plantés, et ils sont devenus bicentenaires et ils gênaient un peu les constructions, donc ils ont été coupés. Alors, le boulevard Mariette, l'égyptologue boulonnais, a été honoré, un lycée, un monument, un boulevard. Il est amplement honoré par sa ville natale. Il a fait ses études à Boulogne et après un bref passage à Paris, il part en Égypte où il est nommé en 1858 directeur des Antiquités. Il s'est éteint en 1881. On lit sur son tombeau devant le musée à Mariette Pacha, l'Égypte reconnaissante. Alors, il y a aussi le dernier sou, c'est au nord, à l'extérieur des remparts. Le dernier sou fait office de frontière septentrionale de la cité, peu étendue, mais doté de nombreux commerces, il fait figure de petite ville et possède, malgré certaines distinctions, d'élégantes façades du XIXe siècle. Alors, il y a la porte Gaillol. Alors, ce passage, par un acte brisé, est défendu par deux tours de plan circulaire, conformément aux usages en vigueur au XIIIe siècle. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, elle est fermée et ses parties basses utilisées comme geôle, lui donnant le nom de la rue Porte-Gaillol. Alors, surmontée depuis 1689 par un ensemble pittoresque qui sert notamment de logement, au chef du génie. Il faut attendre 1956 pour que cette construction soit détruite, restituant à la porte Gaillole son caractère primitif. Je pourrais encore vous parler des heures de la vieille ville, mais je vais me limiter à ça.
Bien, merci.
Et
merci.
J'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'aller faire un tour en vieille ville.
Merci Michel.
Bon, c'est moi, Fernande, je vais vous faire la recette. Poireau.
Sucré.
Cassonade.
Chocolat.
Confiture.
T'es là.
La recette du jour. Aujourd'hui, je vais faire recette et un dessert. Le plat, c'est une quiche à la feta. Et le dessert, c'est la bouche au chocolat.
Alors, on commence ?
Oui.
Alors, les ingrédients pour la quiche ?
Il faut une pâte feuilletée, il faut 200 g de lardon, un oignon, tomate cerise, la feta, 3 œufs, une briquette de crème fraîche liquide et des herbes de Provence.
Ok. Bon, on a tout. Comment on fait ?
Dans un premier temps, dans une poêle, on fait revenir on émince l'oignon, on épluche l'oignon, on l'émince, on le fait revenir avec les lardons, on mélange bien. Tant que c'est bien mélangé, on laisse refroidir. Ensuite, dans un plat à tarte, on dispose la pâte feuilletée sur le plat, on pique avec une fourchette le fond de la pâte. Ensuite, on met la préparation lardon et oignon au fond de la pâte. Au-dessus, on met des morceaux de. On coupe les morceaux feta en petits morceaux. On les dispose. Après, on coupe les tomates cerises en deux. On met au-dessus. Ensuite, on bat 3 œufs avec la crème fraîche. On mélange. On met du poivre. On mélange bien. On met les œufs, la crème fraîche au-dessus, toute la préparation. Et pour finir, on met des herbes de Provence.
Ok. Après ?
Et après, on met au four pour cuire. Il faut piquer avec un couteau s'il n'y a plus de pâte sur le couteau pour voir si c'est bien cuit.
D'accord. Il faut compter combien de temps à peu près ?
Moi, je vais au pif.
D'accord, au pif.
En fait, tu surveilles.
Je surveille. Je l'ai déjà fait chez moi. Il faut que ça roussille au-dessus.
D'accord.
Et
donc, ça, c'est la recette. La recette de la. Aussi
de la guiche.
La guiche, d'accord.
La guiche, la feta, lardon et les tomates cerises.
Oui. Et combien de degrés, oui, c'est important aussi, ça.
Au pif, j'espère.
190.
190, parfait. Très bien. Bon, la guiche, c'est fait. Oui. Maintenant,
on peut manger ça avec une salade, accompagné avec une salade.
D'accord.
Et là, c'est le dessert. Je vais vous présenter la mousse au chocolat.
Allez, hey. Allons-y.
Alors, il faut pour la mousse au chocolat, une plaque de chocolat de 200 grammes de chocolat pâtissier. Il faut 3 œufs. Ensuite, il faut couper le chocolat en morceaux, faire fondre au micro-ondes. Après, on prend deux saladiers, on sépare les jaunes et les blancs. Dans le chocolat fondu, on le met dans les jaunes, bien mélangé avec une marisse, parce qu'autrement, ça va cuire tout de suite. Ensuite, on bat les blancs, on met un peu de sel dans les blancs, on les monte en neige. Et après, quand c'est bien monté, on les incorpore dans le chocolat avec les œufs et on mélange bien avec une marise. Ensuite, on met dans des ramequins et on met au frigidaire.
Et ?
Et après, il faut laisser, pour manger froid,
ouais.
Il faut laisser une heure ou la mange, je préfère le laisser le lendemain.
D'accord.
Quand c'est frais.
Ouais. Et on mange ça avec quoi ? Une salade, des frites ?
Aucun biscuit.
Avec un petit biscuit, ok.
Référence, hein.
Pas que salade, maintenant.
D'accord, ok. Ben, parfait. Bon. Merci, Fernande.
De rien, merci Luc.
Merci Fernand. Là, nous allons enchaîner avec une interview d'Isabelle présentée par Marianne.
Ok, Isabelle, bienvenue et merci de ta présence.
Bonjour à toutes, merci de m'avoir invitée.
Ouais. On est super content de t'avoir ici. Tu es journaliste pour France 3 Côte d'Opale. Alors, pour rappel, avec l'équipe des Boulons de Boulogne-sur-Mer et en compagnie de nos collègues les Décalés de Boulogne, nous nous sommes rencontrés pour une émission spéciale, un événement que France 3 nous avait fait l'honneur de couvrir.
Non, c'est vous qui m'avez fait l'honneur de m'inviter.
Attends, la suite. Parce qu'en effet, c'est pas tous les jours qu'on est filmé en train de présenter une émission de radio en public et sur la plage. Et je dois dire que c'était très sympa comme expérience.
Ouais,
aujourd'hui, nous avons la joie de te retrouver cette fois dans nos locaux où tu as accepté de venir nous rencontrer pour répondre à nos questions dans nos micros sur notre antenne. Waouh,
c'est normal.
Quelle grande classe quand même de pouvoir interviewer une journaliste à notre tour. Quand je vais dire ça à mes potes, je me demande qui de toi ou moi va demander à l'autre un autographe à la fin de l'émission.
Alors on fera un selfie.
Mais suspense, un selfie, c'est très bien aussi. En tout cas, puisque aujourd'hui c'est moi qui pose des questions, je te proposerai dans une première partie de nous parler de toi et de ton parcours de vie personnelle et professionnelle. Bonjour Isabelle, qui es-tu ?
Merci. Eh bien, écoute, je suis née il y a presque 57 ans de la rencontre de deux Boulonnais. Hein. Mes parents sont de Boulogne-sur-Mer, qui se sont installés à Malo-les-Bains, donc je suis née dans le Dunkerquois. J'ai vécu plus de 50 ans à Lille avant d'arriver à Boulogne pour y travailler à la rédaction de France 3 Côte d'Opale, comme tu l'as dit, qu'on appelle Littoral Hauts-de-France maintenant. On est basé dans les rues piétonnes de Victor Hugo et donc j'y travaille au quotidien et je couvre toute l'actualité du littoral de Bray-Dunes jusqu'à la baie de Somme avec une équipe de 10 personnes. Voilà. Tu veux savoir autre chose?
Comment...
Moi, j'adore la mousse au chocolat.
Ouais, alors,
j'ai adoré la recette. Très bonne chose.
Ouais.
Trop forte, Fernand.
Avec des frites?
Non.
Alors, comment tu en es arrivée au journalisme?
Alors, d'abord, j'ai fait des études littéraires et je n'ai pas toujours été journaliste. Je suis journaliste que depuis que je suis arrivée à Boulogne-sur-Mer. Je travaille à France Télévisions depuis longtemps. J'étais avant archiviste, documentaliste. Pour la rédaction, parce qu'il faut savoir que dans une rédaction de journalistes, il n'y a pas que des journalistes, il n'y a pas que des gens, que ceux qu'on voit à l'antenne, il y a aussi toute une partie de préparation, un peu comme à la radio en fait, hein, il y a des techniciens et puis toute une partie de préparation de contenu. Hein, Michel avait fait des recherches en histoire tout à l'heure, il y a donc toute une équipe qui permet de préparer les interviews, parce qu'on touche à tous les domaines, politique, sport, justice, fait de société, on ne peut pas tout savoir et à plusieurs, on sait plus de choses. Donc j'ai été archiviste et documentaliste pendant très longtemps au journal télé de Lille avant d'arriver à Boulogne grâce à un concours interne. Je suis devenue journaliste parce que j'ai passé ce concours et j'ai été acceptée en formation.
C'est génial parce que tu es en train de répondre à la moitié des questions que j'avais préparées. Il faut que je remanie.
Ah, tu peux les reposer, on
je vais les reposer différemment.
C'est une question de temps après.
Oui, tout à fait. Alors... est-ce que en fait le métier de journaliste correspond à l'idée que tu t'en faisais toi? Mais du coup, tu avais déjà un pied dedans, mais qu'on s'en fait aussi, ouais, en général.
Je ne sais pas ce qu'on se fait comme idée. En tout cas, il y a les journalistes de télé, les journalistes de radio, les journalistes de presse écrite. Voilà. Même si on travaille sur la même matière, on ne travaille pas de la même façon. En télé, on a la difficulté du temps, un peu comme en radio. C'est-à-dire que moi, quand je suis venue vous rencontrer, j'ai passé avec vous 2 heures. Et quand je suis arrivée au bureau, on m'a dit, voilà, tu as 2 minutes. Voilà, raconter 2 heures en 2 minutes, c'est une contrainte. Après, il faut se déplacer. Donc, comme je vous disais, on va de Bray-Dunes ou en baie de Somme. Ça fait des fois 1 heure de route. Ça se rajoute sur le temps qu'on a pour réfléchir et poser des questions et puis monter après. Alors, je ne travaille pas toute seule. À la télévision, on a, à France Télévisions, la chance d'être plusieurs dans l'équipe. Donc, avec moi, vous avez rencontré une de mes collègues qui fait la caméra, donc les images. Et puis après, quand on arrive au bureau, on fait un montage avec un monteur. Donc, on est au moins minimum 3 personnes pour pouvoir sortir un reportage et raconter ce qu'on a vu en un temps qu'on nous a donné. Donc là, j'avais 2 minutes pour vous.
Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à propos du travail réalisé autour d'une production, justement, dont on n'aurait pas forcément l'idée quand on n'est pas...
Voilà, ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on peut un jour s'occuper de rencontrer des gens qui font de la radio dans un cadre merveilleux qui est la plage de Boulogne-sur-Mer. Le lendemain, on peut aller faire un champion de foot. Le surlendemain, aller au palais de justice. Donc c'est vrai que c'est une chance et une difficulté à la fois, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout, je ne suis pas spécialisée dans tout, donc voilà, je découvre à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est une rencontre, et une rencontre humaine. Et ça, c'est chouette, parce que vraiment, on s'enrichit, on apprend beaucoup de choses et on découvre beaucoup de gens. Et les gens du Nord-Pas-de-Calais et du littoral sont vraiment des gens super.
J'en suis persuadée. On va marquer une petite pause musicale, Isabelle. Julien, tu vas nous proposer une chanson ?
Oui, alors c'est When the Smoke is Going Down de Scorpion.
Merci, bonne écoute.
J'adore Scorpion.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
L-
Les Boulons.
Les Boulons.
Les Boulons.
L'émission des Boulonnais.
De retour avec Isabelle et Marianne pour leur rubrique.
Alors Isabelle, en tant que journaliste, sur le journal, enfin sur la rédaction que tu occupes actuellement, excuse-moi, est-ce que vous pouvez choisir ou refuser des sujets et des thématiques ? Et est-ce que toi-même tu as un sujet de prédilection ?
Alors, on a souvent un débat. Donc une rédaction, ça débat, ça discute, ça propose. Rarement on refuse puisque on couvre une actualité, donc quand il se passe quelque chose, c'est notre métier d'aller le couvrir, bien sûr. Après, on a chacun un regard, donc on le couvre à notre façon, hein. On a une histoire personnelle chacun, même si on est on se tient à la neutralité. Nous, on récolte la parole des autres, hein. Donc on va voir et on les écoute. Donc le débat le matin se fait en fonction de ce qui se passe. Donc quand je suis venue vous rencontrer, vous étiez sur la plage, c'était votre journée de travail, donc on n'avait pas décidé au départ de venir, et puis le matin on discute et on découvre que vous y êtes, et moi je trouve ça intéressant. Donc je propose et mon rédacteur en chef accepte, et puis voilà, on déclenche le reportage. Alors certes, on a chacun des domaines de prédilection, c'est ce qui parfois nous rend des spécialistes. Moi j'aime beaucoup la nature. Le Boulonnais, c'est un magnifique territoire où on a la chance de posséder une faune, une flore extraordinaire, hein, des animaux, de quoi se balader, un littoral superbe, la mer et tout. Donc voilà, j'essaye d'être au maximum dehors et j'ai la chance de pouvoir y arriver, effectivement.
Bon, s'il y avait quand même un événement, genre de l'histoire, que tu aurais trop aimé couvrir, quoi.
Ah, la grande histoire, tu veux dire, ouais, celle qu'on a pendant les livres,
l'actualité. Brûlante, quoi, tu vois.
Je trouve quelque chose qui était impressionnant, c'est, comme j'ai la chance de travailler à la télévision, on a un support image. Voir le mur de Berlin tomber, incroyable, quoi. Alors, moi, je ne l'ai pas couvert, parce qu'à cette époque-là, j'étais documentaliste, je ne partais pas non plus à l'étranger, non. Ça, c'est vraiment des histoires incroyables. Après, voir les témoignages des gens qui subissent aussi des catastrophes ou des guerres, aller à leur rencontre, les laisser parler, et faire en sorte qu'on connaisse leurs difficultés, c'est des moments qui sont effectivement des grands moments peut-être dans la vie d'un journaliste d'actualité internationale. Bon, moi je travaille en local, donc je ne vais pas couvrir ce genre d'événements, mais ici il y a aussi des choses au quotidien qui sont des moments forts. Je pense à des gens que j'ai rencontrés après des traumatismes, après des exploits sportifs, des champions. Et voilà, je pense que c'est l'émotion qui guide aussi notre travail et la rencontre avec eux.
Est-ce qu'il y a des qualités en particulier qui sont nécessaires pour être journaliste, et est-ce qu'il y a des contraintes particulières à dépasser ? Tu m'as parlé des déplacements, des horaires tout à l'heure, mais est-ce que tu en vois d'autres ?
Des qualités, moi je pense que c'est l'ouverture d'esprit, l'écoute. Je pense qu'il faut être à l'écoute, pas passer à côté d'émotions, après, il ne faut pas se laisser submerger non plus, parce que chaque jour, on rencontre des gens différents. Donc, l'air de rien, on passe vite d'une histoire à une autre. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut savoir raconter rapidement, mais les faits précis. Une sorte d'avoir toujours la notion de vérité avec nous, en tout cas, d'être un maximum les plus... comment je pourrais dire, les plus véridiques, en tout cas, de ne pas trahir la parole qu'on nous donne, et puis faire des synthèses, de ne pas oublier, parce qu'on oublie très vite en passant d'une histoire à une autre, alors qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas oublié.
Évidemment, pas oublier le plus important. Je crois que Julien avait une petite question à te poser.
Oui, alors j'avais pas trop compris, c'était... il y a une spécialité pour chaque journaliste, c'est ça pour,
Parfois ça existe. Alors bon, moi je travaille dans une locale, donc à Boulogne-sur-Mer, on n'a pas de spécialiste. Si on est dans une rédaction beaucoup plus grande, par exemple si vous partez au journal national de France 3 à Paris, on a effectivement des journalistes qui se sont spécialisés. Donc le journaliste sportif, le journaliste politique, le journaliste justice... Lui, il connaît vraiment des dossiers, il les suit parfois des procès du début à la fin. Il a d'ailleurs été couvrir l'actualité quand le drame s'est produit avant d'arriver au procès. Nous, non. En local, on est généraliste, donc on travaille effectivement d'un jour sur l'autre sur des tas de domaines différents. Donc je peux aller rencontrer les champions du twirling baton de Boulogne-sur-Mer et puis les animateurs et chroniqueurs des Boulons aussi aujourd'hui.
Bah, d'accord, merci.
Bah, merci Isabelle merci pour cette rencontre qui doit déjà se terminer. Merci aussi de la manière dont tu avais couvert notre émission et tu as vraiment pris le temps d'assister à l'ensemble de l'émission, de questionner chaque participant. Et le rendu du reportage nous a tous fait très plaisir. Alors, c'était très loin des clichés et des raccourcis dans lesquels tombent facilement les médias dès qu'il s'agit de santé mentale. C'est une bonne pilule de bien-être et de contentement de soi que France 3 nous a offert là. Donc, merci par ta présence.
Mais c'est vous qui nous offrez une petite bulle de bien-être.
Ça vient bien résonner avec ce qu'on veut défendre chez les Boulons. En fait, c'était super.
Super. Merci à vous.
Je peux dire quelque chose en écoutant Isabelle. Je m'aperçois que le journalisme... C'est comme la santé mentale, c'est une équipe qui travaille.
Je suis d'accord.
Et qui amène les gens vers le bien-être. Merci.
Merci à vous.
Bien. Merci, Jeannette. Du coup, nous allons parler de micro-trottoir présenté par Marianne sur la rentrée des classes. J'espère que votre rentrée n'était pas trop salée. Marianne, c'est à toi.
Alors, bonjour.
Bonjour.
La rentrée, t'es pour ou t'es contre ?
La rentrée des classes ? Bah si, je suis pour. C'est dynamisant et pour les étudiants et pour les élèves et pour les parents et pour nous les commerçants aussi.
Merci beaucoup.
C'est important pour les parents déjà. C'est un peu de relaxement et quand même c'est intéressant que les enfants passent un peu de temps avec leurs parents les 3 mois et 2 mois passés et après c'est la rentrée, c'est bien. Je trouve que c'est intéressant quoi.
Merci bien.
Et beaucoup d'amour pour la rentrée. Plein d'amour.
Bon, c'est bien la rentrée scolaire, il faut que ça reprenne. Hein. Moi je trouve que bon voilà. Les enfants de toute façon ils commencent à s'ennuyer maintenant. Hein. Au bout de 2 mois, voilà. Il faut que tu reprennes.
La rentrée, vous êtes pour ou contre ?
Bah je suis pour quand même. Ce serait dommage de ne pas aller à l'école. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Et vous faites quoi là ?
Je travaille.
C'est votre rentrée ?
Non, je travaille, j'ai pas de vacances, moi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus.
C'est déjà pas mal, merci bien. Pas mal,
mais je vous en prie, passez une bonne journée.
La rentrée des classes, vous êtes pour ou contre ?
Bah, il faut bien, voilà, c'est ça. Hein, pour, oui, bien sûr, oui. Et ma petite-fille, c'est ma petite-fille, hein, bien sûr, hein, c'est pas ma fille. Hein.
J'aime bien, mais parfois c'est un peu énervant... Quand on doit se relever tôt alors qu'on faisait la grasse matinée tout, pendant toutes les vacances.
Donc vous êtes contre ?
Bah, je suis pour et contre.
Today in France, we...
The children
go back to school.
Oh yeah,
back school. Back school. Okay or not with backing to school.
Yeah, oui.
It's okay.
Yeah.
How long have they had off? How long is the holiday in France?
Two months.
2 months?
Yeah.
In England, 6 weeks.
6 weeks.
Okay. 6 weeks.
Too long in France, are you?
Too long, yeah.
I'm a parent, I think, as much time as possible to have your children at home. Keep them home. Okay. But I suppose for working parents, it's good.
Okay.
Perhaps a bit too long.
Okay.
Yeah, slightly.
Okay. Merci.
Thank you very much.
Merci.
On voudrait savoir si vous êtes pour ou contre la rentrée des classes.
Oui, bah oui, il faut qu'ils y aillent, hein, de toute façon. Ils n'ont pas le choix, pourquoi ?
Et s'ils n'ont pas envie ?
Ah bah, s'ils n'ont pas envie, bah, maintenant, la mode, c'est à la maison, peut-être, avec papa, maman.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Bon, je trouve pas ça top. Parce que, le fait d'être en groupe et tout ça, chacun est différent, ça donne des leçons de vie et tout ça. Oui, parce que moi, j'ai eu des jumeaux, ils ont été à l'école. Hein. J'ai pas fait la leçon à la maison. Hein.
La rentrée scolaire, vous êtes pour ou contre ?
Je suis pour, puisque je suis ex-enseignant. Ah. Donc,
La rentrée des classes, vous êtes pour ou contre ?
Bah, je suis pour.
Pourquoi ?
Bah, parce que les enfants sont bien plus heureux à l'école. Voilà, c'est leur bonheur. Ils retrouvent les amis, les copains, tout le monde. Voilà.
La rentrée des classes, pour ou contre ?
Ben, contre. Contre, je sais pas trop quoi dire, on est contre.
Pour.
Ouais,
alors il faut bien rentrer quoi.
Ouais, ouais.
Il faut bien rentrer un moment.
C'est sûr.
Mais, contre, développer s'il vous plaît.
Parce que les vacances c'est mieux, voilà, c'est tout.
C'est mieux les vacances.
Voilà, c'est ça.
C'est mieux les
vacances. Contre, parce que j'ai pas envie de rester à l'école, je préfère aller en vacances.
Pour, parce que le collège c'est bien aussi.
Double contre.
Merci bien, messieurs.
Merci.
Bon, bah voilà, donc les enfants, profitez de vos vacances parce que bon, bah, quand vous allez bosser, vous aurez plus que 5 semaines.
Maintenant, c'est le tour de Yannick. Elle va nous présenter un quiz et CNIM. Bonjour Yannick.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes prêts?
Oui.
Ouais, on est tous prêts. À vos marques, préparez. Attention, hein, ça démarre fort. C'est l'histoire du petit-déj. Vous la connaissez?
Du petit-déj?
Bah, pas de bol.
Ça commence fort.
Michel, c'est pour toi celle-là. Où va Messi quand il se blesse?
Où va Messi quand il se blesse? Dans les vestiaires, je sais pas.
À la pharmacie.
On va avoir du mal aujourd'hui, Jeannine.
Oh ouais, je me sens pas en forme.
Elles sont dures.
Vous êtes pas en forme. Que dit un escargot quand il croise une limace?
Une nudiste.
Bravo. Tu l'as déjà.
Elle est connue.
Ah mince. J'en choisis une autre. Michel, c'est pour toi aussi celle-là.
Encore.
Que demande un footballeur à son coiffeur?
Raser la tête.
La Coupe du Monde, s'il vous plaît.
Ouais. J'aurais dû y penser.
Quel est le crustacé le plus léger de la mer?
Crevette?
Non. La palourde. Parce qu'elle est pas lourde.
Ah ouais, d'accord.
Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros?
Parce qu'ils mangent des palourdes?
Non. Non. Non, non. Plus fin que ça. Parce qu'ils surveillent
leur ligne.
Bravo. Alors, savez-vous pourquoi Napoléon n'a pas voulu acheter une maison?
Parce qu'il avait Bonaparte.
Bravo.
Ah, bien.
Trop fort.
Bien joué.
Allez, celle-là. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très vite et qui devient rouge?
Une pomme.
Non, elle est un peu gorge, j'avoue. C'est une grenouille dans un mixeur. Bon. Oh.
C'est dégueulasse.
Oh bah, des fois, ça fait du bien.
Une petite bête.
Allez, question. Il faut réfléchir là. Quels sont les animaux les plus dangereux? Il y en a deux.
Mamba noir et hippopotame.
Non, t'es pas loin quand même pour le premier. Un serpent, parce que il serre et il pend.
J'ai pas compris. D'accord.
T'as pas compris? Il serre et il pend.
Et il pend.
Ah, serpent. Oui. Bon, d'accord.
Et une tortue.
Ouais, bravo. Parce qu'il tord et il tue. Ouais. Ah, Michel, t'es pas mauvais, Cédric, quand même. Et quelle lettre
un castor aussi.
Peut-on lancer dans tous les sens?
Il casse et il tord.
Ça, c'est facile.
De quoi?
Quelle lettre de l'alphabet peut-on lancer dans tous les sens?
Le O?
Non.
Le M?
Non.
Le P?
Non.
La H?
Non.
Ah,
lancer dans tous les sens, réfléchissez.
Le
qu'est-ce
cul,
qu'on lance?
Le cul.
Ouais, moi aussi.
Non, lance pas le cul, non, mais... non, non, c'est pas ça du tout.
Ah, mince.
C'est le D.
Ah oui.
Ah ouais.
La
lettre Q.
Vu comme ça.
On m'entend, mais on ne me voit pas. Qui suis-je?
L'invisible.
Le son.
Qui est presque?
Le vent.
La voix.
La voix. Ouais.
Qu'est-ce qui peut remplir une pièce sans prendre de place?
La lumière.
Bravo. Allez, là, je vais faire appel un petit peu à vos connaissances des villes en
Michel,
France. Un petit peu. Voilà. Allez, Michel. Peux-tu me donner les spécialités de certaines villes? Par exemple, Cavaillon.
Cavaillon, melon. C'est le melon.
Bravo. Agen.
Pruneau.
Les pruneaux, oui.
Menton.
Menton, c'est...
Le citron.
Le citron.
Bravo. Paimpol.
Paimpol, c'est les...
Pommes.
Les huîtres.
Non. Coco. Le coco. Montélimar.
Nougat.
C'est donné celui-là. Nancy.
Nancy, c'est...
La bergamote.
Bravo. Isabelle, elle touche là. Attention. Hein. Plougastel.
Plougastel, c'est les fraises.
Bravo. Non. Grenoble.
Les noix.
Bravo. Bayonne, facile. Donné.
Jambon.
Allez, la dernière, elle est donnée. Dijon.
La moutarde.
La moutarde.
Bon, je vous fais une petite charade vite fait ou
oui.
J'ai pas le temps. Alors,
oui.
C'est pour toi. Mon premier est l'inverse de dur. On fait mon deuxième lorsque l'on voit passer une étoile filante. On fait mon troisième lorsqu'on ne dit pas la vérité.
Mouvement.
Bravo. Allez, mon premier est l'inverse de la guerre. C'est pour toi celle-là.
Bah, la paix.
Bravo. On apprécie lorsque mon deuxième est ensoleillé. Mon troisième, les singes se sert généralement de mon troisième pour s'équilibrer. Ça, c'est pour toi.
La pétanque.
Bravo. Alors. Allez, on fait généralement mon premier à partir de fruits. Si vous restez trop longtemps, vous risquez d'avoir mal à mon deuxième. Mon tout est un sport.
Le judo.
Bravo, super. Mon premier est l'opposé de haut. Mon deuxième est traduit en français par planche à roulettes. On met les céréales du matin dans mon troisième. Mon tout est un sport qu'il vaut mieux être grand.
Basketball.
Bravo.
Le sport de Jaïk.
Bravo. Alors maintenant, je finis par quelque chose que j'ai à vous dire, à vous transmettre, de la part de, du GHT, du centre hospitalier Calais, Aidac et Boulogne. Le service de psychiatrie et d'addictologie du centre hospitalier participeront aux manifestations organisées dans le cadre des semaines de la santé mentale du 10 au 21 octobre 2022. Les actions et informations seront relayés sur le Facebook de l'hôpital. Voilà, et merci pour votre participation.
Merci, Jeannick.
Bon, là, nous allons faire une pause musicale avec Gilbert Beco, présenté par Michel.
Non, Cathy.
Ah, Cathy. Bah, c'est marqué Michel.
Alors, avant, quand même, parce qu'on va conclure sur la pause musicale, peut-être.
Pause musicale, ouais. Ouais.
Donc, la prochaine... Vous avez les dates de la prochaine? Bon, bah, je vais les donner. Donc, prochaine émission, donc la 72e, hein, le samedi 29 octobre à 13h et le dimanche 30 octobre à 15h. Est-ce qu'il y a d'autres informations avant de conclure?
Okay.
Non, pas d'infos. Je te laisse conclure à ce moment-là.
Bon, je vais lancer ma propre chaîne YouTube, les chroniques de Eurocobi. Voilà. C'était tout.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide,
Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.